L'histoire que nous venons de lire est une histoire très intéressante. Je dirais comme toutes les histoires qui se trouvent dans la Bible. Elle est intéressante parce que elle s'intitule, je l'ai fait intituler, renversement de situation. Dans la Bible, nous découvrons beaucoup d'histoires. Quelqu'un a même fait remarquer que 70% environ des textes de la Bible sont des récits, sont des histoires. Parfois, on retient de la Bible simplement le côté doctrine, enseignement, certains diraient théologie. Mais même si la Bible contient une certaine forme de théologie, puisque la théologie, c'est l'étude de ce qui concerne Dieu, la Bible parle de la première à la dernière page de Dieu. Cependant, la forme sous laquelle la Bible nous a été rapportée, la forme sous laquelle les livres de la Bible sont écrits, c'est celle du récit. Et cet après-midi, donc, nous allons regarder pendant quelques minutes ce récit qui se situe à un moment où l'apôtre Paul et son compagnon de l'époque, Silas, sont arrivés pour la première fois en Europe. Paul et Silas sont entrés en Europe jusqu'alors. Ils n'avaient fait que proclamer l'Évangile en Israël et puis autour d'Israël, enfin Paul surtout en dehors d'Israël, dans le nord du pays, dans le nord du Moyen-Orient, jusque dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie et qu'on appelait à l'époque notamment l'Asie mineure. Et puis pour la première fois, suite à une vision, Paul et son ami Silas, son compagnon Silas, entrent en Europe dans la ville de Philippe où se situe l'histoire qui vient d'être lue. Alors donc, cette histoire est simple. Paul et Silas prêchent l'Évangile, et puis une jeune femme qui devinait l'avenir, d'une certaine manière, on peut dire cela comme ça, qui avait un don de divination, a commencé à suivre Paul et Silas et à les perturber, un peu chercher à les perturber en disant des choses à leur sujet. Et Paul, donc, a fait sortir l'esprit mauvais qui était dans cette femme et qui lui permettait de faire cela. Et cela a créé du trouble. Pourquoi ? En fait, ce n'est pas toute la ville qui est troublée. Sont troublés les maîtres de cette jeune femme, de cette jeune servante, parce que cette jeune femme, par ce qu'elle faisait, leur faisait gagner beaucoup d'argent. Vous savez que souvent, les troubles commencent pour une histoire d'argent. C'est une affaire commerciale, c'est une affaire d'argent. Ces hommes, voyant cette femme libérée et qui ne faisait plus son travail, vont perdre beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils font arrêter Paul et Silas et les font jeter en prison. Et puis, dans cette prison, Paul et Silas, avant d'aller en prison, d'abord, sont frappés, sont roués de coups, sont fouettés, et ils sont jetés sur le sol de leur prison ou de leur cellule. Souvent, c'était plutôt des grandes cellules où on mettait tout le monde ensemble, dans des conditions, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec les prisons que nous avons dans notre pays aujourd'hui, et on les jetait à même la terre, et ils côtoyaient des animaux indésirables, et c'était vraiment des conditions très difficiles. Ils ont été roués de coups et fouettés. Ils ont certainement le corps bien en mauvais état, peut-être même couvert de sang à cause du fouet, et ils sont là par terre, et vers le milieu de la nuit, dit le récit, ils se mettent à chanter des cantiques et à louer Dieu. Et pendant qu'ils chantent ces cantiques et qu'ils louent Dieu, faisant fi de l'adversité, il retentit un bruit, il y a une secousse, et la Bible dit qu'il y eut un tremblement de terre, et lorsque le tremblement de terre a lieu, c'est la fin de l'histoire, lorsque le tremblement de terre a lieu, les murs se fissurent, les portes sortent un peu de leur gond, et le chef de la prison est effrayé, il a peur que tout le monde s'échappe, alors il tente de se suicider, mais l'apôtre Paul intervient à temps. Il dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et l'apôtre Paul lui dit, c'est au verset 31 que Paul répond « Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et l'homme accepte de croire en Jésus et il se donne à Jésus, il accepte de croire, et l'apôtre Paul et Silas vont ensuite le baptiser. Et cet homme, bien sûr, nous dit le texte, est rempli de joie par ce qui vient de se passer. Il faut savoir qu'à l'époque, si des prisonniers s'échappaient d'une prison, on considérait, certainement encore aujourd'hui, la même chose, mais on considérait donc le chef de la prison, le gardien de la prison, comme coupable de leur fuite, et contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, on le mettait à mort, parce qu'il avait laissé s'échapper les prisonniers. Alors on comprend pourquoi il a eu peur et que tout tremblant, il a dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Parce qu'il pensait justement à se suicider pour éviter qu'on le mette à mort, voire même qu'avant de le mettre à mort, on le torture parce qu'il n'avait pas bien accompli sa mission. Alors je crois qu'il y a plusieurs choses dans ce texte, et nous voulons nous arrêter quelques minutes sur chacune de ces choses. Tout d'abord, comme dans d'autres textes du livre des Actes, il y a le rôle des autorités. Les autorités de la ville qui ont laissé, qui ont accepté ce que leur disaient, qui ont écouté avec attention et accueilli favorablement ce que leur disaient les maîtres de la femme. En fait, les chefs de la ville n'avaient rien à voir là-dedans. Les chefs de la ville ne sont pas responsables et que le commerce fonctionne bien, qu'une entreprise fonctionne bien ou pas. Mais les responsables, les chefs, les maîtres de cette femme vont tellement faire pression sur les chefs de la ville que ceux-ci vont ordonner la mise en prison de Paul et Silas. On voit souvent, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit souvent le rôle qui est joué par les autorités. Par exemple, quelques lignes, quelques pages plus haut, quelques années plus tôt, on voit qu'à un certain moment, le roi Hérode a fait arrêter Jacques, l'un des disciples de Jésus, l'un des apôtres, l'un des 12 apôtres, et l'a fait exécuter, parce qu'il savait que l'Église était mal vue des autorités et du peuple juif qui pratiquait donc l'ancienne religion, enfin l'ancienne religion, la religion qui précédait le christianisme dans le pays d'Israël. Et alors, le texte nous dit, pour faire plaisir aux habitants, aux chefs religieux, aux juifs, pardon, pour faire plaisir aux chefs religieux, le roi Hérode a fait également arrêter l'apôtre Pierre. Et c'est dans le milieu de la nuit que là encore Dieu intervient et va faire libérer miraculeusement l'apôtre Pierre. Les autorités ont un certain pouvoir. L'apôtre Paul a même dit dans sa lettre aux Romains que nous devions être soumis aux autorités. Et je crois qu'il est remarquable de voir que à l'époque où l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Romains, dans laquelle donc il dit « Soyez soumis aux autorités parce que les autorités viennent de Dieu », ça ne veut pas dire que Dieu nomme personnellement chaque chef d'État partout, ou chaque autorité partout, c'est plus compliqué que cela, c'est plus mystérieux que cela, mais Dieu veut qu'il y ait des autorités. Dieu veut qu'il y ait un certain ordre. Dans la création de Dieu, il y a de l'ordre. Et dans la société, Dieu veut qu'il y ait de l'ordre. L'apôtre Paul dit « Soyez soumis aux autorités ». Et il faut savoir qu'à l'époque où Paul écrivait ses paroles, l'autorité sur tout l'Empire romain était bien sûr détenue par un empereur. Et cet empereur s'appelait Néron. Or, pour ceux qui ont étudié l'histoire, même sans avoir étudié l'histoire, on sait généralement que Néron n'était pas le plus vertueux de tous les empereurs romains. Néron était un homme particulièrement corrompu, particulièrement cruel, et pourtant est particulièrement ennemi des chrétiens, puisque lorsqu'il y eut ce fameux incendie de Rome sous son règne, il fit courir le bruit que c'était les chrétiens qui avaient mis le feu à la ville, alors que c'était lui, paraît-il, d'après les historiens, qui avait mis le feu, fait mettre le feu à la ville. Néron, donc, était sur le trône, et Paul dit « Il faut respecter toutes les autorités ». Cependant, la Bible dit autre chose aussi. La Bible dit que Dieu laisse monter sur le trône, ou fait monter sur le trône les autorités, et qu'il les fait descendre quand il veut. En d'autres termes, Dieu contrôle les autorités qui, elles, donnent l'impression de nous contrôler. Mais la Bible insiste bien, Dieu tolère, Dieu admet, et puis quand Dieu voit que les choses vont trop loin, Dieu intervient. Le thème de ce message, la leçon de ce passage, c'est que aussi l'attitude des croyants dans l'épreuve, puisqu'il s'agit d'une épreuve pour Paul et Silas, l'attitude des croyants pendant l'épreuve est très importante. Lorsque l'épreuve arrive, certains sont effrayés, d'autres s'interrogent, d'autres décident de ne plus croire en rien, d'autres se jettent à genoux. On pourrait multiplier les réactions à l'adversité. La Bible dit que Dieu voit toutes choses, que Dieu sait toutes choses, et que Dieu peut intervenir dans la vie de ses enfants à tout moment. Lorsque, par exemple, dans la Bible, nous lisons l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, nous voyons que Joseph est allé d'épreuve en épreuve. Vendu par ses frères, par jalousie, il est jeté dans un puits, dans une citerne plutôt, puis il est vendu comme esclave. Étant esclave, il est accusé mensongèrement par la femme de son maître et il se retrouve en prison. Là, il est arrivé en bas, au plus bas de l'échelle. Et c'est de là que Dieu, qui le voit, qui le connaît, et cela est exprimé par cette expression, même en prison, l'Éternel, Dieu, était avec Joseph. Le lieu où nous sommes, ce qui nous arrive, d'après la Bible, n'est pas aussi important que le fait de savoir que si nous sommes fidèles à Dieu, si nous lui obéissons, si nous marchons dans ses enseignements, Dieu sera avec nous. Alors, vous me direz, Joseph en prison, Dieu avec lui, c'est un petit peu particulier. Eh bien, la Bible dit que Dieu était avec lui, et elle le montre puisque, à un certain moment, quand l'heure de Dieu est arrivée, son plan s'accomplit, et Joseph est libéré de prison, et il se retrouve comme bras droit du roi du pays. Il va administrer le pays pour le compte du roi. C'est comme cela que Dieu travaille. Il voit la souffrance, il voit les problèmes, il voit les difficultés. Un peu comme lorsque Dieu dit à Moïse, alors que Moïse est dans le désert en train de garder des moutons, il attend son heure, ou peut-être a-t-il oublié carrément que Dieu l'avait appelé à le servir. Dieu descend et lui dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses douleurs, maintenant je suis descendu pour le libérer. » Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Alors, quelle doit être l'attitude du croyant dans ces circonstances? La Bible dit que l'attitude du croyant est très importante. Souvent, quand nous sommes dans la difficulté, ce n'est pas à la difficulté que nous devrions regarder, mais à Dieu qui voit et qui sait toutes choses. Que voyons-nous dans la personne de Paul et Silas? Ils sont donc, comme je l'ai décrit tout à l'heure, par terre, dans leur prison, couverts de bleu. Il ne nous est pas dit qu'on leur a cassé un os, mais ils sont couverts de bleu puisqu'ils ont été roués de coups, fouettés. Ils ont des traces de sang, des cicatrices partout dans le dos, des plaies qui n'ont pas encore été désinfectées sans doute. Ils sont dans un triste état, mais au milieu de la nuit, ce qu'on peut traduire par vers minuit, que font-ils? Ils prient et chantent les louanges de Dieu. La Bible dit que nous devrions nous réjouir, ou que plutôt nous devons nous réjouir quand nous sommes persécutés pour la cause de Dieu, pour la cause de l'Évangile. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est ce que dit le message de la Bible. C'est ce que dit la Bible. Dieu est avec nous parce que c'est à cause de lui que nous souffrons. Et la Bible dit que parce que Dieu est avec nous, Dieu nous gardera, Dieu conduira toutes choses. C'est ce qui se passe avec Paul et Silas. Ils sont dans leur prison, mais ils refusent de se plaindre. Ils auraient pu dire, mais Nous avons servi Dieu pendant des années, ça fait des années que nous sommes en train de prêcher l'évangile partout, c'est lui qui nous avait demandé de le faire, nous l'avons fait fidèlement, et la récompense, c'est la prison, ce sont les coups, et ce sont les coups de fouet. Non, ils auraient pu dire cela. Ils auraient pu aller aux autres prisonniers qui leur les interrogeaient, comme je suppose que ça se passe quand on arrive dans une prison et qu'il y a d'autres prisonniers dans la même cellule. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Hein, j'imagine que ça doit être comme ça que ça se passe, parce que je ne suis pas allé moi-même, évidemment. Alors, les autres ont dû leur demander, mais pourquoi êtes-vous là? Et Paul et Silas ont répondu, parce que nous avons prêché l'évangile. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais entendu une chose pareille. Bien sûr, puisque c'est la première fois qu'ils viennent en Europe. Ils viennent de prêcher pour la première fois. Alors, à ces prisonniers qui les interrogent, sont tous surpris. Et ils doivent se dire, ou peut-être leur ont-ils dit, « Mais vous êtes bien récompensés, finalement. Votre Dieu, il est quand même un peu particulier. Il vous demande de faire quelque chose, vous le faites, et en récompense, vous êtes là en prison avec le corps meurtri. » Paul et Silas ne réagissent pas de cette manière. Paul et Silas décide de louer Dieu et de chanter. Moi, j'aurais aimé, pardonnez-moi ce que je vais dire là maintenant peut-être, comprenez le bien, je le dis peut-être parce que je n'y étais pas, j'aurais bien aimé être dans cette cellule, à cette époque-là, hein, pas maintenant, pas en prison en Grèce, non. J'aurais bien aimé être dans cette cellule à entendre chanter Paul et Silas. Parce que je crois que dans la situation où ils étaient, pour pouvoir chanter et louer Dieu de cette façon, il fallait vraiment que l'Esprit de Dieu habite en eux, et habite en eux d'une façon exceptionnelle. Je crois que lorsqu'on a ce degré de foi, on ne risque plus grand-chose. On peut donner à Dieu, et c'est aussi le message de cette histoire, quand nous réagissons bien à l'épreuve, et je ne dirai pas l'épreuve que Dieu nous envoie, je dirai l'épreuve que Dieu permet qui nous arrive. Quand nous réagissons de cette bonne manière à l'épreuve, en louant Dieu, la louange est l'expression de notre amour pour Dieu, mais elle est aussi l'expression de notre foi, de notre confiance dans le fait que Dieu contrôle toutes choses. Paul et Silas louent Dieu et prient parce qu'ils savent que Dieu est en contrôle de la situation. Ils ne savent pas ce qui va se produire maintenant, mais ils savent que s'ils sont là, c'est que Dieu l'a permis et que cela va certainement servir quelque part à quelque chose, puisque la Bible dit, c'est l'apôtre Paul lui-même qui l'a écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Toutes choses, toutes sans exception, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » S'il est dit que toute chose concourt au bien, et l'apôtre Paul le disait par expérience certainement aussi, s'il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors même un séjour en prison, après avoir été roué de coups et flagellé, fouetté, alors même ce séjour en prison, dans ces conditions, doit pouvoir servir au bien de celui qui le subit. Il n'y a pas, bien sûr, de bien particulier à recevoir des coups et à être fouetté. Il n'y a pas de bien particulier dans le seul fait d'être jeté par terre dans une prison, certainement qui sent mauvais, qui est pleine d'humidité, qui est pleine de bêtes, parce que c'était comme ça à l'époque, excusez-moi de parler de cela, mais c'était vraiment des conditions difficiles par rapport aux prisons d'aujourd'hui. Je parle de notre pays de France, bien sûr. Mais l'attitude de Paul et de Silas va ouvrir la porte à l'action de Dieu. Quand nous oublions que Dieu est en contrôle, quand nous laissons entendre aux autres que nous nous inquiétons pour ce qui va arriver maintenant, quand nous avons le visage ou les yeux voilés par la difficulté et que nous ne sommes plus en mesure de faire confiance à Dieu, quelque part, nous bloquons l'action de Dieu. Et inversement, comme nous venons de le voir, lorsque par notre louange et notre prière, nous manifestons notre foi, notre confiance en Dieu, nous ouvrons les portes ou nous les laissons ouvertes pour que Dieu puisse agir comme il l'entend. C'est ce qui va se produire dans quelques instants, juste après. Un tremblement de terre intervient. Les murs de la prison sont ébranlés. Les portes, plus ou moins, les gonds des portes se défont. Et donc les portes peuvent s'ouvrir. Et à ce moment-là, c'est le geôlier, c'est le directeur de la prison qui commence à paniquer. La panique devient dans son camp. Avant, il avait mené les choses, il avait fait battre de verge, de fouet, avec le fouet les disciples, il les avait fait rouer de coups, et il avait dit, il faut les jeter dans la prison intérieure et leur mettre des chaînes aux pieds. C'est lui qui était en contrôle de tout. Vous savez, il était là, et il se disait, maintenant ces hommes-là, c'est de moi qu'ils dépendent. Je vais pouvoir faire ce que je veux avec eux. Et puis dans la nuit, changement, renversement de situation, comme le dit le titre de la méditation, renversement de situation, c'est Dieu qui reprend le contrôle. En fait, il ne l'a jamais laissé. Mais Dieu va maintenant montrer que c'est lui qui contrôle tout. Le directeur de la prison panique, il prend son épée, nous dit le texte, pour se tuer, parce que, comme nous le disions tout à l'heure, il a peur que les prisonniers commencent à s'échapper ou qu'ils sont déjà en train de partir. Et il sait ce qui l'attend maintenant, si les prisonniers se sont échappés. Alors il veut se tuer, mais tout à coup, Paul l'interpelle et lui dit « Ne te fais pas de mal, car personne ne s'est échappé. Nous sommes tous là. » Et cela va amener cet homme par l'action variée de Dieu. Dieu intervient, un événement exceptionnel arrive, il y a un changement complet de la situation. Et tout cela a un but. Le but, c'est que cet homme, le directeur de la prison, bien sûr, d'abord, les autres prisonniers ont entendu les louanges de Dieu, ont entendu parler de Dieu. Maintenant, c'est le directeur de la prison qui va être touché par l'Évangile. Cet homme pensait, c'est pour ça qu'il est dit dans le texte, l'homme pensait que les prisonniers s'étaient enfuis, alors il a pris son épée pour se tuer, pour se suicider. Il pensait que, mais la réalité, c'est que c'est simplement Dieu qui est à l'œuvre. Dieu intervient pour renverser la situation et pour aider ses enfants qui lui sont fidèles. Puis cet homme donc entend parler de l'Évangile. Paul et Silas lui expliquent pourquoi ils sont là. Paul et Silas lui expliquent quel est le sens de leur mission. Et cet homme, nous dit la parole de Dieu, cet homme croit ainsi que tous les membres de sa famille. Et un peu plus tard, ils vont être baptisés, comme Jésus l'a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il va se faire baptiser et il nous est dit, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et je terminerai sur cette note. Dans le livre des Actes, on voit, pas seulement dans le livre des Actes, mais en particulier dans le livre des Actes, souvent, on voit que la prédication de l'Évangile et la foi que les gens qui l'entendent mettent dans l'Évangile provoquent, premièrement, un changement de vie chez ceux qui entendent l'Évangile et qui y croient, et deuxièmement, cela apporte dans leur cœur une grande joie. On le voit dans différents textes des Actes des Apôtres. Par exemple, lorsque l'apôtre, le diacre Philippe, rencontre le haut fonctionnaire éthiopien sur la route qui mène dans son pays, eh bien, il nous est dit que lorsque le haut fonctionnaire éthiopien a entendu l'Évangile, il est reparti chez lui dans une grande joie. Un peu plus tôt, nous lisons que lorsque ce même diacre Philippe est allé dans la région qui s'appelle la Samarie pour prêcher l'Évangile, une grande foule est venue l'écouter, il y a eu de nombreux miracles qui se sont accomplis, et il y a eu dans toute la ville une grande joie. Lorsque l'Évangile est entendu et qu'il est cru, il provoque toujours une grande joie. Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous faire accepter une religion. Le christianisme, la foi chrétienne, l'évangile, ce n'est pas une religion, c'est ce que la Bible montre bien. C'est d'abord la découverte de quelqu'un qui est Dieu, et la découverte de ce quelqu'un nous pousse à vivre une autre vie, une vie nouvelle, comme dit la parole de Dieu, si quelqu'un croit en Christ, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle personne. Il commence une nouvelle vie parce que les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Alors, Paul et Silas ont bien sûr été libérés. Ils sont repartis, je dirais, pour de nouvelles aventures, parce que c'est vrai que le livre des Actes des Apôtres est un grand livre d'aventures. C'est un livre qui nous révèle comment Dieu s'est servi des premiers chrétiens pour transformer la vie de leurs compatriotes, de leurs contemporains, et comment Dieu, aujourd'hui encore, peut transformer notre vie si nous lui faisons confiance. Alors que Dieu nous aide en nous rappelant, j'allais dire, ces péripéties, en nous rappelant ces événements qui sont juste un exemple parmi tant d'autres de ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, qui fait suite aux évangiles, que Dieu nous aide à nous rappeler que quelles que soient les circonstances, l'enfant de Dieu ne doit jamais paniquer, mais au contraire, mettre plus que jamais sa foi en Dieu, parce que la Bible nous enseigne que Dieu contrôle toute chose. Dieu voit toute chose. Dieu nous voit. Dieu nous voit, Dieu nous aime, chacun individuellement. Et à tous ceux qui veulent mettre leur confiance en lui et croire que ces récits, que ces choses qui sont écrites dans la Bible sont des choses véritables, qui sont bien arrivées, qui sont vraiment arrivées, eh bien tous ceux qui veulent mettre cette confiance en Dieu pourront vivre eux aussi des délivrances, des interventions de Dieu, et pourront chanter et louer sa gloire. Amen.